Merci Sophie, et puis merci à chacune et chacun de vous pour votre accueil ce matin. Et je suis aussi, j'exerce un ministère d'aumônier de prison au centre pénitentiaire de Rion, dans l'équipe de l'aumônerie protestante qui dépend de la Fédération protestante de France. C'est un ministère important d'être présent auprès des détenus, hommes, femmes, de ce centre pénitentiaire qui en compte environ 700. Nous essayons de vivre avec eux des cultes, des études bibliques régulières tous les 15 jours. Et puis, bien sûr, mon ministère est essentiellement des visites individuelles. Voilà. Je vous propose pour aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un texte que j'ai pris dans l'Évangile selon Marc, à partir du chapitre 8. Et en fait, je lirai plusieurs passages. Dans les chapitres 8, 9 et 10. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas trop long. En fait, par trois fois, Jésus annonce à ses disciples ce qui va arriver, sa mort et sa résurrection. Et il le fait trois fois de manière différente. Et puis, la conclusion de ces trois annonces, pour moi, en tout cas, se résume dans la guérison de l'aveugle Bartimée qui conclut toute cette section de l'évangile de Marc. Après la guérison de l'aveugle Bartimée, Jésus entre à Jérusalem et là, c'est la dernière partie de son ministère sur la terre. Ce qui l'attend, c'est la mort et la résurrection qu'il annonce déjà aux disciples avant. Donc, ma première lecture, c'est dans Marc 8, à partir du verset 31. Ce récit précède juste le moment où Pierre a déclaré que Jésus était le Christ. Jésus commença alors à apprendre aux disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et qu'il se relève trois jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan !» lui dit-il, « Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Que donnerait un être humain en échange de sa vie? La deuxième annonce se trouve dans le chapitre suivant, Marc 9, également à la fin du chapitre, à partir du verset 30. Parti de là, il traversait la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il instruisait les disciples et leur disait « Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux humains, ils le tueront, et trois jours après, il se relèvera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et lorsqu'il fut à la maison, Jésus se mit à leur demander « À propos de quoi raisonniez-vous en chemin ?» Mais eux gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus s'assit, appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Enfin, la dernière annonce, elle se trouve dans le chapitre suivant, chapitre 10, l'effet de la répétition pédagogique, mais difficile à faire passer. À partir du verset 32, « Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés, et ceux qui suivaient avaient peur. Il prit encore les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, le livreront aux non-juifs, se moqueront de lui, lui cracheront dessus, le fouetteront et le tueront, et 3 jours après, il se relèvera. Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Jésus leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous » « Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit « La coupe que moi je bois, vous la boirez et vous recevrez le baptême que je reçois, mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Ils viennent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen, et il se mit à crier « Fils de David, aie Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, si je vous demandais qu'est-ce qui caractérise un chrétien, une chrétienne, il y aurait certainement plusieurs réponses possibles. On pourrait se dire, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît bien sa Bible ? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui prend du temps pour la prière ? Sans doute. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie d'être sympa avec les autres ? C'est à espérer. Est-ce que c'est une personne qui a une bonne moralité ? Ça coule de source. Mais est-ce bien là la manière unique de définir un chrétien ? Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? Eh bien, Marc nous répond très simplement qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus. On l'a chanté tout à l'heure et Sophie nous a dit « c'est un engagement ». Et c'est exactement cela. C'est quelqu'un qui suit Jésus, c'est-à-dire qui vit une vie de disciple. Et Jésus, 3 fois de suite, a bien décliné ce que c'est que la vie de disciple, ce qui est au cœur de la vie d'un disciple. Il n'est pas question de connaissances intellectuelles, il n'est pas question d'œuvres bonnes qui seraient accomplies pour Dieu, mais c'est toute la vie qui est sollicitée. savez, quelquefois dans les églises, on dit « oui, celui-là, il est croyant, mais pas pratiquant ». Enfin, c'est comme ça qu'on se définit. Ou bien pratiquant et pas croyant, ou pas croyant, pas pratiquant, enfin, j'en sais rien. Bref, mais ça ne veut rien dire. Est chrétien, est chrétienne, celui, celle qui suit Jésus. Point barre. Je suis dans une église où on parle beaucoup en ce moment d'être une église de témoins. Alors, c'est bien parce que nous, protestants historiques, on est un peu frileux par rapport à ça. Et d'un seul coup, on nous dit bah, « allez sur les places et sur les parvis ». Mais pour moi, c'est insuffisant parce que le témoignage ne vient qu'après. Témoigner de quoi si je ne vis pas ce dont le Seigneur vient me faire grâce? Et donc, la vie de disciple est première. Or, pour Marc, nous sommes souvent devant une énigme. Parce que nous le savons bien tous, les uns comme les autres, nous ne sommes pas des disciples parfaits. Et vous le voyez déjà dès le début du récit que j'ai lu, mais bien plus encore tout du long. Dans l'évangile de Marc, il y a 16 chapitres. Sur les 16 chapitres, il y en a 14 où les disciples sont omniprésents. Ils sont là tout le temps. Ils ne lâchent pas Jésus d'une sandale. Et puis, curieusement, il y en a deux où ils sont complètement absents. Mais complètement absents. C'est le chapitre 15 et le chapitre 16. La mort et la résurrection. Rien que ça. Pas un seul disciple à la croix dans l'évangile de Marc. Pas un. Et au tombeau, dans la finale la plus ancienne, ce ne sont que des femmes qui sont présentes. Et excusez-moi pour le « que », mais ça veut dire que les disciples, eux, ne sont plus là. C'est l'homme en blanc devant les femmes qui dira « allez dire à mes disciples et à Pierre que je les précède en Galilée ». Et c'est à elles de transmettre ce message. Et pour moi, ça m'a saisi quand je me suis aperçu un beau jour qu'être disciple, eh bien, ce n'était pas si simple et que l'on pouvait bien s'arrêter, justement, à un moment donné, devant les difficultés, devant peut-être la trop grande exigence que nous n'avons pas aperçue au départ de la vie de l'Évangile. Ou plus exactement, et c'est ce que Jésus essaye de montrer par les trois annonces qu'il fait, c'est qu'il faut passer par la croix. Il faut passer par la croix pour accéder ensuite à la gloire. Et autre curiosité des passages, c'est que les trois fois où Jésus annonce à ses disciples qu'il va avoir à souffrir beaucoup, et puis qu'il va ressusciter, se relever d'entre les morts, les disciples lui disent « Non, ce ne sera pas possible, ça ne pourra pas arriver, tu ne pourras pas être mis à mort ». Mais c'est curieux, il n'y a pas une seule remarque des disciples sur la résurrection. Pour eux, c'est d'une évidence certaine. Ou alors, ils ont complètement zappé. C'est-à-dire, ils n'ont pas entendu ce que Jésus leur annonçait vraiment. Donc, un disciple, ce n'est pas forcément quelqu'un qui écoute toujours exactement ce qu'on lui dit. Et puis, ce n'est pas forcément quelqu'un qui marche droit jusqu'au bout. Et il y a des moments de chute. Et en particulier, Pierre, vous voyez, là, tout à l'heure, dans le récit, il est appelé Satan. Enfin bon, ce n'est pas très gentil. Mais il est quand même invité à se remettre derrière Jésus, c'est-à-dire à retrouver sa place de disciple. Et puis, Pierre, on le sait bien, c'est son reniement. Et puis, voilà. Mais en même temps, c'est un homme qui s'est relevé, qui a goûté au pardon. Donc, un disciple, ce n'est pas, frères et sœurs, quelqu'un qui est toujours nickel-chrome, parfait dans sa direction. On a parfois des erreurs, on chute. Mais on peut toujours se relever parce que quelqu'un est là, sur le chemin, devant moi, pour me montrer la route. Nous sommes bien des aveugles et des mendiants, un peu comme Bartimée. Nous sommes bien des aveugles, car nous avons besoin d'être éclairés sur ce qui nous habite, sur ce que nous avons au fond de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être éclairés sur un point que Jésus questionne lorsqu'il demande à Bartimée « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et vous n'avez peut-être pas fait attention, mais c'est la même question qu'il a posée à Jacques et Jean, juste avant. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et alors, ils vont dire qu'on soit assis à l'un à droite, l'autre à ta gauche, à savoir encore lequel des deux va choisir la droite et la gauche. Mais que veux-tu que je fasse pour toi ? Et je me suis dit, si Jésus me posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que je répondrais ? Quelle réponse jaillirait spontanément du fond de moi-même, c'est-à-dire ce à quoi j'aspire au plus fort de moi, ce qui me fait vivre, ce qui pourrait me faire vivre et me faire tenir debout, et me faire affronter les difficultés de la vie. Jésus redemande, quel est mon désir le plus profond ? Qu'est-ce qui est là, au fond de moi, comme un besoin vital de vivre, comme un cri ? Et peut-être que nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, Seigneur, tu me demandes, que veux-tu que je fasse pour toi ? Voilà ce que je désire te répondre, du plus profond de moi-même. La lumière sur notre désir, et puis le fait, mais nous l'avons chanté aussi tout à l'heure, le fait d'être mendiant, le fait d'avoir à tout à recevoir de celui qui nous a tout donné. On prête à Martin Luther, le réformateur, cette parole à la fin de sa vie, enfin sur son lit de mort. Nous sommes tous des mendiants. Ce sont les derniers mots qu'on lui prête, de très belles paroles. Nous sommes tous des mendiants. Certes, au bout de 40 ans de vie chrétienne, on a vu des choses, on a connu des choses, on sait des choses, mais nous avons encore tout à apprendre, parce que nous n'avons jamais terminé le chemin. D'ailleurs, vous avez remarqué combien le mot « chemin » est présent dans tous ces passages. Nous sommes en route. Être mendiant, c'est vraiment être suspendu, suspendu de toute notre vie à ce que Dieu veut nous donner, en chemin. C'est bien qu'on soit en chemin, parce que ça veut dire qu'on n'est jamais arrivé au terme. Et c'est bien qu'on soit en chemin parce qu'il n'y a pas d'église parfaite. Et je suis désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas une communauté parfaite, et celle dans laquelle je suis, non plus, loin de là. Et puis, nous sommes donc des gens qui sont aussi en route dans nos communautés. Alors, vous êtes en route très physiquement, entre deux lieux, entre la rue Guinemer et l'avenue Édouard Michelin. Et ce chemin-là veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi qu'on quitte un lieu qui nous a, dans lequel on s'est senti bien et avec lequel nous avons beaucoup de souvenirs, et puis nous allons vers un inconnu. Et puis il faut quand même travailler pendant qu'on est en chemin entre les deux lieux. Et ce n'est pas facile non plus. Et parfois, on est dans un présent, une actualité qu'on aimerait toujours faire durer. Et puis l'avenir nous paraît souvent un peu incertain. Eh bien, ce chemin, c'est justement un chemin de confiance. Pour Bartimée, qui va suivre Jésus sur le chemin, c'est la fin de ce passage, il suit Jésus sur le chemin, c'est-à-dire, il se met lui aussi dans les traces de Jésus, il met ses pieds dans les traces du Seigneur. Il ne savait pas ce qui allait l'attendre, il ne savait pas la croix, il allait l'affronter. Eh bien, être en chemin, eh bien, c'est aussi aller vers l'inconnu dans la confiance. Et ça se joue, frères et sœurs, à tous les niveaux de notre vie. En tant que mari, femme, père, mère, faire confiance pour nos enfants, c'est une rude épreuve parfois. Je suis moi-même père de 3 enfants et chacun a eu son chemin bien différent. Et pour plusieurs d'entre eux, des chemins parfois compliqués. Faire confiance pour nos enfants. Faire confiance pour celles et ceux que nous rencontrons. Faire confiance parce que nous savons que l'avenir, ce n'est pas moi qui le maîtrise, ni le mien, ni celui des autres, mais que nous le remettons entre les mains du Seigneur. Je disais, nous disciples de Jésus, nous qui de tout cœur essayons de marcher sur sa route, nous sommes bien parfois très, très imparfaits. Et un petit détail encore que Marc nous laisse, c'est qu'il nous dit au tout début de son évangile, le premier verset du premier chapitre, « Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Alors l'évangile, on l'a entendu, Jésus l'a annoncé, « Fils de Dieu, Pierre l'a reconnu ». Christ, Pierre l'a reconnu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Fils de Dieu, cette annonce du tout début de l'évangile, elle est encore suspendue. Personne, jusque-là, n'a reconnu Jésus comme fils de Dieu. Et vous savez où est-ce qu'on le trouve ? Où la trouve cette reconnaissance de Jésus comme fils de Dieu ? On la trouve dans la bouche d'un centurion romain, au pied de la croix. Ce n'est pas un disciple qui va le dire. C'est un païen. Un païen qui, d'un seul coup, a les yeux ouverts, comme Bartimée, sur ce qui se passe. Donc, beaucoup d'humilité. Hein, beaucoup d'humilité dans tout ce passage, beaucoup d'humilité dans notre vie de disciple. Parfois, dans nos églises, dans certaines églises, on préfère souvent la gloire à la croix. C'est-à-dire pouvoir, et c'est heureux, montrer les bons aspects, et puis soit les cacher les mauvais, soit les relativiser, soit les éviter. Or, Jésus nous dit, il faut que chacun porte sa croix pour me suivre. Ce n'est pas la croix de Jésus que nous allons porter. Il y en a qu'un qui a pu la porter. Elle est unique et c'est lui seul. Mais nous avons des croix, nous, à porter. Et il nous faut faire confiance dans ce Seigneur qui va nous aider à porter tous ces fardeaux qui nous pèsent parfois. Mais nous ne pouvons pas éviter ces fardeaux-là. On ne peut pas avoir la grâce sans une obéissance. On ne peut pas avoir la foi sans un renoncement. Et c'est tout à fait ce que Jésus essaye de dire par ces trois annonces de la passion, en montrant bien, et de la résurrection, pardon, en montrant bien qu'effectivement, il faut en passer par là, pour moi, pour vous, pour nos communautés et pour l'Église. Et l'Église, aujourd'hui, est bien mise à mal par bien des scandales et des difficultés qu'il ne faut pas éviter et qu'il faut traverser. Je vois dans la personne de Bartimée, j'en finirai par là, ces trois aspects de la vie du disciple. D'abord, quelqu'un qui va répondre immédiatement à l'appel, qui ne va pas tergiverser, au contraire, qui va même désirer être rencontré. Jésus, fils de David, et compassion, j'ai lu dans la Bible Second, la Nouvelle Bible Second, ou bien, et pitié, c'est pareil, Jésus, fils de David, et compassion. Il y a chez Bartimée cette envie d'être rencontré. Lui qui est au bord du chemin, nous dit le texte, et lui que des foules rabrouent, comme d'ailleurs Pierre a rabroué, c'est le même verbe, a rabroué Jésus au chapitre 8. Et là, ce sont les foules qui le rabrouent, qui lui disent « mais fous-lui la paix enfin, », quelque chose comme ça. Et lui ne se laisse pas démonter. Vous voyez, le fait d'avoir à insister va aussi creuser en lui son point fort, le point de son désir le plus profond. Et c'est comme ça qu'il pourra dire que je retrouve la vue. Et donc, il y a cette réponse prompte, quand Jésus l'appelle, tout de suite, on nous dit, il se met debout. C'est souvent comme ça qu'on retrouve dans les évangiles les appels des disciples. Hein, quittant tout, ils le suivirent. On se dit, mais comment ils ont fait ? Ils n'avaient pas de femme, pas d'enfant, pas de métier. Enfin, c'est extraordinaire. Quittant tout, ils le suivirent. C'est parce que tout mérite d'être quitté pour cet unique-là, pour cet unique Jésus. Mais Bartimée, donc, se répond rapidement. Et puis, en même temps, on voit bien qu'il y a des difficultés à traverser. Et des difficultés à traverser, c'est cette foule qui empêche ce malade d'avoir accès au Seigneur. Cette foule, elle est composée, bon, elle est mélangée, elle est composée de gens plus ou moins sympathisants de Jésus, plus ou moins curieux, mais il y a aussi des disciples. Et parfois, ça veut dire aussi que l'Église, elle est capable du meilleur comme du pire, c'est-à-dire qu'elle est capable parfois d'empêcher les gens d'accéder, parce qu'ils ne sont pas dans nos critères, parce qu'ils ne répondent pas à toutes les cases, ils ne cochent pas toutes les cases que nous avons, toutes les grilles que nous avons essayé de mettre au point. Et Bartimée n'avait pas l'air de cocher toutes ces grilles, en tout cas, il était certainement un empêcheur d'avancer. Et c'est pour cela qu'on l'empêche d'avoir accès à Jésus. Parfois, l'Église, je me le dis souvent pour l'Église, mais je me le dis souvent dans mon témoignage personnel, nous avons pu voiler, nous avons pu masquer, nous avons pu cacher. J'ai pu le faire par mes désobéissances, le visage du Seigneur et l'appel qu'il lance aux êtres humains autour de moi. Là, quand même, la foule, elle est quand même gonflée. Elle vient quand même dire à ce Bartimée, Jésus a mieux à faire que de t'accueillir. Elle est quand même gonflée parce que Jésus n'a fait que cela, accueillir et rencontrer des gens tout au long de l'évangile. Il ne fait que cela. C'est dire qu'elle n'a rien compris. C'est dire que pour elle, Jésus, c'est propriété privée, défense d'entrée. Jésus, c'est le Sauveur. Jésus s'offre à tous. Tous n'accepteront pas, certes, cette offre, mais il s'offre à tous. Il ne s'offre pas qu'à une petite communauté restreinte. Il ne s'offre pas qu'à une église particulière. Dieu a tellement aimé le monde. J'ai besoin de me repentir pour toutes les fois où mon comportement, mes paroles ont pu éloigner quelqu'un du Seigneur. Je disais tout à l'heure, et plus on essayait de faire taire cet homme, et plus il crie. Et en arrêtant son pas, Jésus va se mettre au rythme de Bartimée. Jésus a toujours été capable d'accueillir le plus petit. Mais il ne le fait pas lui-même, il ne va pas l'appeler, il va le faire appeler. Et ça, pour moi, c'est un petit détail qui en dit long. De la même manière, vous vous souvenez peut-être dans la multiplication des pains, les différents récits qu'on a dans les évangiles, Jésus ne distribue pas directement le pain. Il le fait distribuer par ses disciples, c'est-à-dire qu'il les met au boulot. Et voilà. Et puis, mais ce n'est pas eux qui multiplient, qui font le miracle, mais ils sont participants des effets de ce miracle. Et c'est ça l'Église, c'est ça la vie du chrétien, c'est être participant de ce que Jésus fait, de ce qu'il nous donne, de ce que nous recevons de lui. Jésus n'appelle pas, il le fait appeler. Et ça, c'est important. Et le mot d'ailleurs « appel » dans le texte de Bartimée est un mot un peu particulier. Il y a dedans le mot « oreille »,« voix ». C'est celui qui appelle, c'est celui qui prononce quelque chose avec sa bouche, par sa voix. Voilà, Jésus donc appelle Bartimée et on voit bien qu'une espèce de cet homme est remis en mouvement et le texte nous le dit bien, il est assis au bord du chemin, il croupit là dans sa misère et dans son abandon, dans sa marginalisation. Puis hop, il saute. Il saute sur ses deux pieds. Quand même une image un peu de l'homme nouveau qui est appelé à la résurrection. Et puis un des petits détails qui me paraît pour moi très parlant, qui ne nous saute pas aux yeux forcément, il lâche son manteau. Quand est-ce qu'un chrétien est appelé à quitter ses habits? Vous savez bien, c'est au moment du baptême. Parce que quand on est baptisé, on ne peut pas être baptisé tout habillé. Ou en tout cas, on essaye de se découvrir un maximum. Bien sûr, la pudeur fait qu'on n'est pas complètement dénudé, mais quand même. Eh bien, notre Bartimée, en quittant son vêtement, veut en revêtir un autre. Il vient aussi se dépouiller de ce qu'il a de plus précieux. Parce qu'un aveugle mendiant, il n'avait pas grand-chose pour lui, mais il avait au moins un manteau, et son manteau lui servait avait plusieurs fonctions. Ça lui servait de couverture la nuit, ça lui servait de protection contre la pluie le jour, ça lui servait aussi, il étalait son manteau pour pouvoir avoir quelques pièces. Bref, c'était à la fois son outil de travail, c'était vraiment beaucoup de choses. Et ce Bartimée se dépouille de son manteau. Il se dépouille aussi de toutes les protections qu'il s'était fabriquées pour aller vers Jésus. Jésus est celui qui vient enlever en nous toutes les barrières de défense que nous essayons de mettre en place pour éviter qu'il nous rencontre. Et lui, spontanément, a laissé son manteau. Il quitte tout pour suivre Jésus. Or, je n'ai pas lu ce récit pour ne pas vous être trop long, mais entre ces différentes annonces de la mort et de la résurrection de Jésus, il y avait le récit du jeune homme riche. Tout quitter pour suivre Jésus. Alors ça, c'est dur. Et le jeune homme riche, il va quand même pas rentrer dans la, dans la proposition que Jésus lui fait. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Bartimée, lui, le peu qu'il a, eh bien, il va le laisser. Je parlais tout à l'heure de paradoxe. Je disais, l'Église, parfois, elle peut éloigner de Jésus. Mais, il faut aussi que je contrebalance, parce que l'Église est capable de très belles paroles. Et une très belle parole que l'Église peut prononcer, c'est celle que la foule dit à Bartimée, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Être disciple, c'est aussi porter cette parole-là aux autres. « Courage, ta vie n'est pas finie. Lève-toi, tu es appelé à la vie. Tu es appelé à te remettre debout. Il t'appelle. » C'est-à-dire, tu n'es pas anonyme, mais tu es appelé d'un nom particulier. Tu es quelqu'un de précieux, nous l'avons chanté tout à l'heure. Tu es quelqu'un de précieux pour lui. Et à la demande de Jésus, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée répondra « Rabouni ». Alors, « Rabouni », c'est un mot araméen qui veut dire en fait « maître, seigneur ». Alors, ce n'est pas la confession de foi totale. Je vous ai dit tout à l'heure, la confession de foi de Jésus comme fils de Dieu, c'est un païen romain qui la donnera. Mais quand même, il reconnaît en Jésus celui qui a des paroles de vérité, des paroles de sagesse, des paroles de vie. Bartimée exprime ainsi le désir de rentrer dans cette relation particulière de disciple à maître. Et la réponse de Jésus est étonnante. Il dit « Ta foi t'a sauvé ». Alors bien sûr, c'est un raccourci, c'est-à-dire c'est la grâce de Dieu reçue dans la foi qui t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé parce que elle te permet cette confiance d'accueillir cette parole nouvelle, libératrice que Dieu prononce sur toi. Et Jésus va lui dire « va » et ce « va » se transformer pour Bartimée en « vient » puisque l'évangile se termine ainsi. Il suivait Jésus sur le chemin. Avant d'être envoyé, Bartimée va d'abord suivre Jésus dans cette liberté que Jésus lui redonne de répondre. J'aimerais juste terminer en disant que, en soulignant simplement que la question du salut était déjà présente dans la péricope qu'on a lue au moment où, après la rencontre de Jésus avec l'homme riche, les disciples avaient posé la question à Jésus. Oui, mais enfin bon, il faut tout, renoncer à tout, alors qui est-ce qui peut être sauvé ? Au verset 26 du chapitre 10. Et Jésus avait alors répondu, cette parole est magnifique, magnifique, que nous pourrons emporter avec nous. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Tout est possible pour Dieu qu'un aveugle retrouve la vue, qu'un mendiant soit enrichi, qu'une église accueille et appelle, que des hommes, des femmes trouvent enfin en Christ le sens de leur vie. Oui, à Dieu, tout est possible. Et Bartimée reconnaît que Jésus seul peut réaliser l'impossible, à savoir que celui qui perd sa vie la sauvera. Sur le chemin qui va vers Jérusalem, lieu de mort, la confiance de Bartimée perçoit la vie plus forte encore dans laquelle le salut est à l'œuvre. Bartimée est la seule personne guérie dont il est dit qu'il suit Jésus, et c'est en même temps le seul miracle dans l'évangile de Marc où la personne est nommée. Il est donc bien une figure particulière parce qu'il nous appelle aussi à nous dire, en ayant rencontré Jésus, j'ai trouvé une identité nouvelle. Frères et sœurs, être disciple, c'est reconnaître en Jésus celui qui sauve, c'est le suivre en réponse à son appel, c'est persévérer en dépit des obstacles, c'est s'alléger en renonçant à ce qui nous est important, s'alléger pour le service, c'est être appelé par mon nom, et accueillir ce nom nouveau que Dieu me donne, cette vie nouvelle qu'il m'accorde. Je vous invite à la prière. Devant toi, Seigneur, je reconnais que ma vie de disciple peut être tiède et chancelante. Garde-moi de croire qu'un vernis de bonne moralité suffirait, qu'une bonne connaissance de la Bible suffirait, qu'un enthousiasme passager pour te suivre suffirait, que de bonnes œuvres pour autrui suffiraient. Seigneur Jésus, je veux te suivre comme un aveugle guéri, un mendiant de ta grâce, un faible fortifié par toi, un pécheur pardonné par toi, un homme, une femme unique pour toi, au nom unique reçu de toi. Seigneur, préserve-moi de la lassitude, du découragement, pour redécouvrir avec les frères et sœurs que ce chemin, ton chemin, passe par la croix et nous conduit au tombeau vide. Oui, ton chemin nous conduit au tombeau vide, c'est-à-dire plein de toutes les espérances, de toutes les victoires que tu remportes. Seigneur Jésus, sois loué. Amen.